Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. C'est vendredi, c'est le club des idées du grain. On ne peut plus faire confiance à personne, pas même à un étudiant en école de commerce, c'est dire. Pour avoir ignoré cet aspect fondamental de la nature humaine, Laurent Wauquiez se retrouve au cœur de la tempête médiatico-politique de la semaine. L'objet du litige, des propos tenus devant une trentaine d'étudiants de l'école de management de Lyon. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes y dispense un cours sur les grands enjeux contemporains, en mode « parlez vrai », mal lui en a pris. Dans un enregistrement pirate diffusé dans l'émission Quotidien sur TMC, on entend Laurent Wauquiez expliquer aux étudiants que Nicolas Sarkozy, lorsqu'il était président, mettait les ministres sur écoute pour pomper tous les mails, tous les textos, que la démolition de François Fillon à la présidentielle a été organisée, téléguidée même par Emmanuel Macron, et que tout ça doit rester entre nous, sinon, et je cite toujours Laurent Wauquiez, « ce que je vais vous sortir sera juste le bullshit » que je peux sortir sur un plateau médiatique. Alors cette affaire renvoie au statut particulier du off dans la parole politique. Ce qui est révélé sous forme de confidence doit-il toujours rester confidentiel ? S'agit-il d'une condition nécessaire pour établir un lien de confiance entre les journalistes et les politiques, quitte à alimenter la défiance d'une partie du public ? Et quand un politique demande la confidentialité, n'espère-t-il pas parfois le contraire ? Alors quand c'est off, est-ce que c'est off ? C'est la question du soir, en compagnie de trois des membres du club. Anastasia Colosimo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, enseignante à Sciences Po. Sylvain Bourmeau, bonsoir.
Bonsoir.
La suite dans les idées, c'est sur France Culture le samedi à 12h45. Vous êtes également le patron d'AOC qui publie tous les jours. Et puis Brice Couturier, bonsoir.
Bonsoir, Regardette.
Chroniqueur au Point et bien sûr producteur à France Culture. Le tour du monde des idées, c'est du lundi au vendredi à 11h53. Alors j'aimerais d'abord avoir votre avis à tous les trois sur la façon dont les enregistrements des propos de Laurent Wauquiez ont été obtenus. Le magazine Le Point nous en livre le détail cette semaine. Ils expliquent dans Le Point que la veille du cours, il y a plusieurs des étudiants qui s'étaient inscrits, qui ont reçu un message sur Messenger qui disait ceci. « Bonjour, pardon de vous déranger, je vois que vous étudiez à l'EM Lyon, l'école de management. Je suis journaliste pour Quotidien, l'émission de Yann Barthès, et j'ai une question aussi urgente que top secrète à vous poser. » Comme il se trouve que c'est ce journaliste-là qui a ensuite obtenu les enregistrements, on comprend bien que c'est par ce biais-là qu'il a pu les avoir. Qu'est-ce que vous pensez de cette méthode, de cette façon d'essayer d'obtenir des propos des enregistrements, méthode qui a été qualifiée de méthode de voyou par Laurent Wauquiez? Anastasia Colosimo.
Je pense que c'est effectivement une méthode de voyou, c'est vrai, c'est une méthode assez minable. En même temps, c'est une méthode de journaliste. Enfin, je crois que le métier de journaliste, et un bon journaliste, c'est un bon voyou aussi, et que les informations les plus intéressantes sont généralement récupérées de la manière la plus voyouesque, je ne sais pas s'il y a un adjectif, ou de la manière la plus minable. Ce qui est d'autant plus effectivement un peu voyou, c'est que Laurent Wauquiez a demandé à ne pas être enregistré, ça on le sait. Que les étudiants sont quand même jeunes et aussi peut-être facilement corruptibles par des journalistes en plus d'une émission qu'ils regardent sans doute. On s'imagine tout ça. Alors oui, c'est voyou et en même temps, voilà, je pense que c'est très lié au cœur du métier de journaliste.
Alors nous avons deux journalistes justement à cette table, Sylvain Bourmeau et Brice Couturier. Est-ce qu'un bon journaliste est un bon voyou, Sylvain Bourmeau ?
Non, un journaliste doit respecter un certain nombre de règles déontologiques, de règles de travail, de méthodes.
En l'occurrence,
je pense que il n'y a pas de problème avec les règles. Enfin, de quoi parle-t-on ? On parle d'une parole qui est une parole publique. On ne parle pas d'un échange privé.
C'est là toute l'ambiguïté, hein, justement.
Enfin, Laurent Wauquiez,
Laurent
Wauquiez, je ne sais pas depuis quand il enseigne, mais enfin. Ça fait quand même des années que je vois personnellement des étudiants mettre des magnétophones en marche.
Mais ils vous demandent la permission,
au cours
toujours.
Que je fais. Non, ils ne demandent pas la permission. C'est devenu...
Normalement, c'est réglementaire.
C'est devenu quasiment systématique. Vous savez maintenant à quel point les institutions d'enseignement aiment aussi à diffuser leurs cours. Moi, je considère que dès lors que je m'adresse à un public d'enseignants, que ce que je dis peut très bien être cité. Je considère que c'est une parole publique au même titre que celle que je peux avoir à la radio. Je l'ai intégrée dans le choix que je fais de ce que je dis devant des étudiants.
Mais imaginez,
je suis surpris que quelqu'un comme Laurent Wauquiez, qui a l'habitude de prendre la parole en public, se fasse, entre guillemets, avoir de la sorte.
Mais imaginons, Sylvain Bourmeau, que vous disiez spécifiquement à vos étudiants, je ne veux pas de retranscription, je ne veux pas de tweet, et que malgré cette avertissement-là...
Si je suis un peu malin, je sais qu'en disant ça, je vais provoquer exactement l'inverse. C'est là qu'il est encore plus... Enfin, je sais pas, je trouve ça...
Brice Couturier, sur la méthode.
Oui, c'est un procédé déloyal là-dessus, il n'y a absolument aucun doute. La parole publique, c'est la parole publique, la parole privée, c'est la parole privée, et puis un cours, c'est entre les deux. Un cours, c'est pas une prise de parole devant une télévision, c'est un homme politique qui fait un cours peut demander, comme avait fait Wauquiez, d'avoir la confidentialité. Il avait exigé, en effet, qu'il n'y ait pas de fuite. Il y en a quand même, donc ça prouve qu'il a été maladroit, parce qu'effectivement, quand on fait un cours devant des étudiants, on peut penser, vu les habitudes actuelles des étudiants de s'exprimer sur les réseaux sociaux avec beaucoup de liberté et de rendre compte de ce qu'ils entendent, il peut imaginer que des journalistes mal intentionnés, probablement, utiliseraient ses propos contre lui. Donc il a fait preuve de maladresse.
S'il pouvait l'imaginer, c'est peut-être qu'il l'a fait à dessein.
Voilà, vous me tendez une perche, parce que on peut, enfin, en tous les cas, une partie du milieu, comme vous le savez, soupçonne Laurent Wauquiez de l'avoir fait à dessein. Parce qu'il a médité sur les leçons de Trump, et il a vu que les hommes politiques qui sortaient du bois, qui abandonnaient les phrases toutes faites et prémâchées des spin doctors, remportaient de grands succès dans le contexte populiste et d'exaspération des populations à l'égard de leurs élites dirigeantes. Et il a peut-être médité un peu trop ce précédent, et il s'en est peut-être inspiré avec l'idée, ce que montreront les sondages dans les semaines qui viennent, ou les jours qui viennent en tous les cas, avec l'idée que quand on transgresse un certain nombre de codes, on peut gagner. Et qu'effectivement, vu l'électorat dont il espère faire la conquête, qui est cet électorat qui ne se déplace plus guère, cet électorat qui est entre les Républicains et le Front National, ou un peu des deux, il espère donc, avec de tels procédés, transgressifs encore une fois, cash, vulgaire, il espère effectivement conquérir cet électorat-là en lui parlant la langue qu'il parle lui-même.
Laurent Wauquiez a annoncé son intention de porter plainte et de saisir le CSA. Est-ce qu'il est en droit de le faire ? Oui, sans doute, mais est-ce que c'est quelque chose, comment dire, qui paraît légitime comme intention, Anastasia Colosimo ?
Je trouve que cette question du fait qu'il est à l'EM Lyon en tant qu'enseignant, elle n'est pas complètement neutre. C'est-à-dire que je suis vraiment d'accord avec Brice Couturier pour dire que c'est ni de la parole publique ni de la parole privée. Et il est évident que Laurent Wauquiez n'est pas enseignant et ce n'est pas sa vocation et ce n'est pas son métier. Mais toutes ces écoles-là drainent de plus en plus de personnalités publiques, mais pas seulement de politiques, aussi des éditeurs, des professionnels, en fait, qui viennent aussi donner leur expérience.
Il a les titres et les diplômes pour l'être.
Par ailleurs, il a tous les titres et les diplômes pour l'être plus que quiconque dans ce pays. Néanmoins,
n'exagérons rien.
Il est quand même agrégé, normalien. Pour être professeur, arriver premier normal, premier à la grecque.
Premier à la grecque. Donc effectivement, il est dans les mieux qualifiés.
En tout cas, il pourrait être enseignant. Là, évidemment, il ne l'est pas. Il parle en tant que politique. Toutes ces écoles, elles rassemblent quand même des gens qui ne sont pas des enseignants de profession, mais qui enseignent, et ça porte quand même une question de liberté d'enseignement. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec Sylvain Bourmeau. Moi, j'enseigne. Je détesterais qu'on m'enregistre contre mon gré, parce que parfois, pour faire passer des idées à des étudiants, on dit des choses extrêmement choquantes, on est obligé de les provoquer, on dit pas toujours ce qu'on pense, etc., etc., etc.
Sauf Anastasia Colosimo, que c'est un politique, alors cette qui s'exprime dans un cadre un petit peu intermédiaire entre effectivement le privé et le public, mais qui s'exprime sur des questions politiques, c'est-à-dire il y a rien qui relève de la vie privée, qui là pour poser problème. Là, ce sont des questions politiques.
Oui, mais en fait, ce cours, il est justement assez intéressant, parce que qu'est-ce qu'il leur dit ? Il leur dit, je ne vais pas vous parler comme on parle d'habitude à la télé. Alors ensuite, c'est un peu le bal des faux culs. Tout le monde s'indigne et dit, mais c'est quand même hallucinant, et dit qu'il y a du bullshit, etc. Il est évident que n'importe quel journaliste ici dira que parler 5 minutes avec un politique en off, justement, et il dit des choses bien pires que ce que Wauquiez a dit dans cette classe d'étudiants. Donc, tout le monde s'indigne. La réalité, c'est qu'il fait un cours qui est assez intéressant, qui est de dire, je vais essayer de vous parler sans gueule de bois. La gueule de bois aujourd'hui fait partie malheureusement de notre système.
Sans langue de bois, pas sans gueule de bois. Vous avez dit sans gueule de bois.
J'ai dit sans gueule de bois.
Non, il est sobre, Laurent Wauquiez.
Je dis sans gueule de bois.
Je ne sais pas, est-ce qu'il l'était quand il a prononcé ça.
Non, sans langue de bois. Sans langue de bois.
Sylvain Bourmeau. On va laisser Anastasia se remettre un petit peu.
Je suis.
C'est parce qu'on est dans un bar, c'est pour ça.
Je suis complètement je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Anastasia à propos de l'hypocrisie du commentaire des propos de Wauquiez. Parce que, au fond, on a vu la question se poser en termes de personnalité. On a vu beaucoup d'analyses, alors c'est souvent le cas avec le journalisme politique, hélas, qui psychologisent. Est-ce que Wauquiez voilà, enfin, quel profil psychologique il a pour tenir des propos comme ça, ça. Je pense que c'est absolument pas la question. C'est-à-dire que, en fait, cette occasion, moi je trouve, on peut s'en saisir pour expliquer aux citoyens qui ne sont pas habitués, qui ne savent pas comment fonctionne l'univers politique, comment des responsables politiques ont tendance à se servir d'informations, et je mets beaucoup de guillemets autour d'informations, ont tendance à mettre en scène leur capacité à avoir des informations auprès d'un public, que ce soit d'ailleurs un public militant ou un public de journalistes, pour asseoir leur pouvoir. Et de ce point de vue-là, Wauquiez a fait une performance devant ses étudiants assez caricaturale, assez extrême, mais au fond, qui ressemble à ce que font la plupart des responsables politiques quand ils rencontrent de façon informelle soit des militants, soit d'autres journalistes. C'est-à-dire qu'ils essayent de passer pour quelqu'un qui sait les choses. Ce que ne comprennent pas, je pense, beaucoup de citoyens, c'est que l'univers politique, alors parce que tout le monde nous fait la leçon sur les fake news, mais l'univers politique est un univers traversé de rumeurs, de « on dit », de « on m'a dit que », et dans lequel les gens acquièrent du pouvoir en faisant circuler de fausses informations ou en laissant entendre qu'ils détiennent des informations. C'est une pratique, c'est l'une des pratiques les plus répandues dans cet
dans
univers social.
Dans l'humanité de manière générale.
Oui, mais particulièrement dans le monde
dans
politique.
N'importe quel village, dans n'importe quelle communauté.
Des gens font commerce de ce type de choses. Et pour moi, Wauquiez n'a fait que exprimer ça de façon outrancière, exagérée. Je ne dis pas que tous les hommes politiques se comportent comme ça, à ce point-là. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et du coup, moi, j'aurais aimé qu'on se serve de cette séquence pour expliquer ça et pour dire, au fond, comment ça marche et pour finalement expliquer aussi, mais on va y revenir dans le courant de cette émission parce que c'était au cœur de notre débat, comment fonctionne cette relation très, très particulière et très, très française entre les responsables politiques et les journalistes politiques. Absolument. Qui sont une espèce particulière de journalistes.
Alors, on va y venir dans un très court instant. Je voudrais juste avoir l'avis de Brice Couturier sur ce que vous venez de dire, Sylvain Bourbon.
Écoutez, moi, je suis, comme vous savez, assez âgé. J'ai assisté à la vie politique depuis déjà plusieurs décennies. Et ce que j'observe, c'est un mouvement de balancier.
Dans les années 80, René Coty, il était comme ça ou...
Dans les années 80-90, on reprochait beaucoup aux hommes politiques d'utiliser la langue de bois. On disait, ils parlent pour ne rien dire, ils enchaînent les phrases creuses parce qu'ils ne veulent pas se dévoiler et qu'ils cherchent à créer des consensus autour de leur discours. Et par conséquent, pour ne choquer personne, pour créer ces consensus, ils ne s'engagent jamais sur rien. L'expression « parler vrai », souvenez-vous, c'est Michel Rocard qui l'a utilisé. Il a utilisé le premier, en fait, de manière très indirecte, pour critiquer François Mitterrand, qui était un expert en phrase creuse magnifique comme ça qui pouvait aligner pendant des heures et ça impressionnait beaucoup les journalistes. Michel Rocard a mis en avant cette idée du parler vrai. Lui, il voulait dire simplement, il voulait dire qu'il fallait aborder les vrais problèmes. Or moi, ce que j'estime dans cette affaire Wauquiez, qui m'exaspère, j'aurais préféré participer à une autre émission que celle-ci parce que je pense qu'elle n'a aucun intérêt. C'est que précisément les journalistes.
Bon, bah, au revoir, Brice Couturier. Hein, on vous reverra
attendez,
une prochaine
jusqu'au
fois.
Bout. Les journalistes politiques sont absolument obsédés par les petites phrases. Je pense que les Français, eux, sont intéressés par les vrais sujets. Les petites phrases et les vrais sujets. Vous voyez, alors, les petites phrases, c'est les phrases de Wauquiez. Personnellement, elles m'indiffèrent. Par contre, j'aimerais savoir ce que les Républicains proposent pour, par exemple, la réforme du Code du Travail, par exemple, pour la réforme de la SNCF, par rapport, par exemple, aux exigences des salariés de Air France de partager une partie des bénéfices de leur... Ça me paraît être les vrais sujets. Mais non, on est là à se demander s'il a dit un mot grossier ou un mot pas grossier.
Non, c'est pas ça. C'est pas ça forcément la question. Dans les propos qu'a prononcé Laurent Wauquiez, alors qu'il n'avait pas vocation à être publié, ni qu'il l'ont été quand même, il y a par exemple le fait que, alors c'est ce qu'il dit, que Nicolas Sarkozy espionnait ses ministres.
Ça, c'est une information. Voilà, pas une petite phrase.
Si c'est vrai, c'est une information.
C'est énorme.
Et c'est un énorme scandale quand même.
Oui.
On est d'accord.
Là-dessus, oui. Le reste, non. Mais si vous voulez, c'est ça le problème du journalisme politique aujourd'hui, c'est que face à, il faut bien dire, à une relative absence de compétences spécialisées, quand vous prenez des journalistes juridiques ou des journalistes économiques ou des journalistes analyse de relations internationales. Ils ont une compétence bien précise. Ils sont capables d'éclairer l'actualité en vous expliquant ce qui se passe et surtout pourquoi ça se passe, ce que ça veut dire. Quand on a affaire aux journalistes politiques, comme la vie politique s'est faite de tout, de l'économie, du social, de l'international, etc., et ils sont obnubilés par les petites phrases. Alors, c'est comme ça que, souvenez-vous, que François Hollande a perdu l'élection, parce que le livre de Davet et l'homme, un président ne devrait pas dire ça, c'est ce qui a tué véritablement la campagne de Hollande qui comptait bien se représenter, et c'est parce qu'il avait effectivement confié en off à des journalistes auxquels il avait confiance.
Enfin, en off, on sait pas très bien, justement, c'était quand même des confidences qu'il livrait à des journalistes qui n'étaient pas n'importe quel journaliste en plus. C'est-à-dire, il savait qu'il y aurait un livre derrière, donc c'était des confidences qui avaient vocation à être publiées.
Précisément, c'était pas n'importe quel journaliste, Hervé. C'est-à-dire que, et là je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Brice, c'est-à-dire que c'est là qu'Hollande n'a pas compris. François Hollande adorait, je sais pas, parler aux journalistes politiques. C'est-à-dire d'être dans cette situation de off, dans le commerce des informations, avec des guillemets.
Alors, ce ne sont pas Gérard Hollande et Fabrice Lod,
voilà, c'est ce que je voulais dire.
Des journalistes d'investigation.
François Hollande n'est pas Laurent Wauquiez. Et je pense qu'il fanfaronne pas de la même façon devant les journalistes politiques. Il est plutôt dans le registre de l'humour, éventuellement dans le commentaire, etc., ou l'analyse. Bon. Mais n'empêche qu'il y a ce commerce de choses dont on ne sait pas exactement le statut, des on dit qu'un tel. Bref. Sauf qu'il a eu en face de lui des journalistes qui pensaient être des journalistes politiques, moi je l'écris en un mot, journalistes politiques, et en fait, il avait eu en face de lui des journalistes tout court, c'est-à-dire des journalistes, quoi. C'est-à-dire des gens à qui, quand on donne une information, il la publie. Alors certes, en plus, il la publie tard, puisqu'il était prévu, mais ça faisait partie du contrat, que c'était publié non pas dans le journal du lendemain, mais dans un livre qui paraîtrait plusieurs mois plus tard. Mais effectivement, ça a coûté probablement à François Hollande cette élection.
Est-ce que notre métier, c'est d'être des colporteurs de ragots ?
Anastasia Colosimo, c'est une question qui s'adresse à vous.
Non, malheureusement, non seulement il y a beaucoup de colporteurs de ragots, mais en plus, je pense que ce qui est très vrai aussi, d'ailleurs, c'est très intéressant que ce soit Quotidien qui sorte l'information, c'est qu'il y a une moralisation qui vient des médias qui est très très forte. Il y a une détestation, je pense, parmi les journalistes de Laurent Wauquiez qui est absolument immense. Et donc, je pense
qui dépasse, je pense, les journalistes, hein, mais...
Oui, mais parmi les journalistes surtout.
Même
je
Nicolas
pense.
Sarkozy, à en croire le Canard enchaîné.
Oui. Mais bon, je pense que parmi les journalistes et parmi les médias, il y a une détestation extrêmement forte de Laurent Wauquiez. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant donc, que ça se passe avec Quotidien. Parce que, par ailleurs, ce que Laurent Wauquiez essaie de faire, c'est exactement de parler vrai. Et je pense que ça existe pour le coup. Je pense que c'est pas un mensonge. Je pense qu'il fait partie et qu'il a très bien compris que politiquement, ce qui compte aujourd'hui, c'est de ne plus faire partie de cette élite qui est révoltée contre le peuple et qui considère que le peuple est débile, méchant, trop de droit, trop en colère, trop mal élevé, et que lui il dit, ben moi je suis comme vous, je suis bardé de diplômes, mais moi aussi je suis mal élevé, je dis que lui c'est un gros con, qu'elle elle comprend rien, etc. Et la réalité c'est que je pense que ça parle énormément de gens. En tout cas, il y a déjà eu un sondage qui dit que beaucoup de personnes considèrent qu'il a bien fait d'endosser toutes ces paroles, et je pense qu'il est dans une stratégie qui est très intelligente, qui a marché beaucoup aux États-Unis, qui va marcher en France. Et les journalistes ne veulent pas apprendre cette leçon. Ils ne comprennent pas que c'est comme ça que ça se passe. Donc ils continuent à taper sur la tête. Et on a Patrick Cohen qui dit « Ah, c'est à vous, mais c'est quand même scandaleux. Wauquiez nous dit qu'il dit du bullshit dans les médias. » Enfin, ça fait combien de temps que cet homme est à la télé, à la radio ? Qu'est-ce qu'il essaye de nous faire croire ?
Sylvain Bourmont, vous avez cité le cas du Canard enchaîné, que je trouve intéressant. Alors là, en l'occurrence, dans le numéro de cette semaine, il y a des propos rapportés d'une conversation entre Nicolas Sarkozy et Laurent Wauquiez, d'une explication où il y a notamment cet extrait, allez, je vous le dis quand même, beaucoup de monde, c'est Sarkozy qui parle, en tout cas, ce sont les propos qui sont rapportés à Laurent Wauquiez. Beaucoup de monde me disait que tu n'étais qu'une grosse merde. Aujourd'hui, je n'ai d'autre choix que de penser comme eux. Bon, le Canard enchaîné, il fait ça toutes les semaines. C'est-à-dire, il rapporte des propos politiques qui sont, a priori, des propos qui sont tenus en off. Et il le fait depuis des décennies. Le Canard enchaîné a fêté son 100e anniversaire. C'était quand l'an dernier ou il y a deux ans, je ne me souviens plus très bien. Et Brice Couturier, finalement, plutôt que de mettre ça aussi sur le compte aujourd'hui, peut-être d'une mode du journalisme politique qui ne se contenterait que des petites phrases, c'est quelque chose qui est aussi ancien que la presse, ou quasiment.
Non, je pense que, comme je le disais tout à l'heure, dans les années 80-90, il y avait une tendance à adopter un profil aussi bas, à parler de manière aussi euphémistique que possible quand on était en politique. La nouveauté, c'est que...
Vous pouvez passer pour de la complaisance.
C'était surtout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était surtout une façon d'essayer de fédérer des publics en heurtant aucun, de heurter aucune sensibilité et aucun intérêt surtout. Et pour réformer, c'est difficile de ne heurter aucun intérêt. La différence aujourd'hui, c'est qu'on est dans une arène politique beaucoup plus animée, beaucoup plus violente, et c'est surtout la faute des réseaux sociaux. Regardez comme on s'insulte facilement sur Twitter ou sur Facebook pour des raisons politiques. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les hommes politiques sont obligés d'adopter le style violent, vulgaire, agressif des réseaux sociaux pour être dans l'air du temps. Ça me paraît pas une très bonne idée. Il faut pas oublier que vous nous aviez demandé de réfléchir à ce qui se passe dans les pays étrangers. Dans les pays étrangers, j'ai cherché à savoir. En Angleterre, en Grande-Bretagne, pardon, quand on dit « off the record », ça signifie que la source ne doit pas être identifiée, mais que le propos peut être rapporté. Ça me paraît une distinction très importante. Parce qu'effectivement, quand on parle avec des hommes politiques, par exemple, enfin moi je les fréquente pas, mais quand j'allais au Parlement européen, quand on pouvait discuter à la buvette du Parlement européen avec des hommes politiques, parfois ils vous disaient « n'enregistre pas, mais dans mon groupe politique, nous avons tendance à penser que ceux d'en face sont des crétins pour telle et telle raison ». J'avais le droit, si vous voulez, de répéter que dans tel groupe politique, certaines sources, sans les nommer, estimaient que les autres avaient fait une erreur ou une bêtise, mais je ne devais pas citer qui me l'avait dit de manière précise. Et voilà, il y a quelques règles élémentaires comme ça qui font partie de la décence du métier. Et je pense qu'on aurait intérêt à les respecter davantage plutôt qu'à aller espionner les gens dans les toilettes ou dans leur chambre à coucher.
À les respecter ou peut-être à les fixer davantage, c'est peut-être justement un des problèmes aujourd'hui du journalisme, en tout cas en France, et du journalisme politique, que de ne pas donner un statut suffisamment clair à ce que ça veut dire que des propos off, d'impression des fois, d'expérience. Alors, aussi, que quand on vous dit c'est off, c'est...
Mais, bon, on utilise, mais vous pouvez quand même l'utiliser. Il y a quelques années, il y a 15 ans, 20 ans, seuls les journalistes savaient ce que c'était que le off. C'était pas une notion qui était passée dans le grand public. Aujourd'hui, elle est passée dans le grand public, sauf qu'elle a été complètement transformée. Les propos de Wauquiez ne sont pas des propos off. Ça n'a rien à voir avec le off tel que institutionnalisé dans les relations entre journalistes politiques et responsables politiques. Deux choses. Le canard enchaîné, d'un côté. Le canard enchaîné qui me semble très important pour comprendre l'articulation particulière qui existe en France entre les responsables politiques et les journalistes politiques. Cette page 2 du canard enchaîné, elle fait commerce exactement de la même façon que la responsable politique, de ce type d'information, je mets des guillemets. Pourquoi je mets des guillemets? Est-ce que vous avez déjà vu un seul article politique dans un autre journal que le Canard Enchaîné citant des propos de cette page 2 du Canard Enchaîné? Moi, jamais. Alors ça veut dire quoi? Quel est le statut de ces propos? Est-ce que ce sont des informations? Si oui, pourquoi elles ne sont pas reprises par les collègues? C'est donc qu'il y a un doute sur ces informations. Les journalistes politiques sont les premiers lecteurs du Canard Enchaîné. Ils la connaissent par cœur, cette page 2. Mais ils ne la citent pas. C'est étrange. Qu'est-ce que c'est que cette zone grise? C'est une sorte de soupape qui permet à ce micro-milieu ou à cette espèce d'intersection entre les milieux médiatiques et politiques de respirer, de vivre. Et ça fait des dizaines d'années que ça existe. Ça, c'est pour la France. Côté britannique, le off était tellement institutionnalisé. Bon, il se trouve que j'ai fait ma thèse là-dessus, sur les relations journalistes politiques, hommes politiques en Grande-Bretagne. À l'époque, à Westminster, au Parlement, le off était tellement institutionnalisé que quand on en allait dans le lobbyist correspondent, le couloir, l'équivalent de la buvette, etc., au Parlement, sous Big Ben, eh bien, le off était ce qui était dit entre un journaliste et un homme politique dans quelques mètres carrés qui était au croisement de deux couloirs. Dès lors qu'on se trouvait physiquement dans cette zone, ce qu'on disait était considéré comme off. C'est-à-dire que c'était objectivement matériellement, géographiquement défini. Et ça correspondait exactement à ce qu'a dit Brice Couturier, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir attribuer à une source. Les journalistes britanniques avaient élaboré un code très 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 sophistiqué qui permettait, en fonction des adjectifs qualificatifs utilisés, à qui connaissait le code, de comprendre exactement qui était la source, en fait. C'est-à-dire qu'entre journalistes politiques, ils étaient capables de savoir si c'était un conseiller d'un ministre, un autre ministre du cabinet ou un backbencher, comme on dit, c'est-à-dire un parlementaire qui n'était pas partie prenante du gouvernement. Donc, ce système a littéralement explosé dans les années 80 à l'initiative d'un formidable journaliste politique qui était à l'époque le chef du Sun, du chef du service politique du Sun, qui s'appelait Anthony Bevins, qui a été l'un des fondateurs de The Independent. Et The Independent s'est créé en 1986 avec comme revendication principale de faire exploser ce système hypocrite du off. Finalement, il est rentré par la fenêtre. Ils avaient en face de Bernard Ingham, qui était le spin doctor de Margaret Thatcher, et qui, avec qui ça a été véritablement la guerre. En fait, ça a été un match entre Tony Bevins et Thatcher, cette histoire. Il y a des livres magnifiques sur cette époque. Ça a été un combat perdu. En France, on est des années-lumière derrière. Cette réflexion n'existe pas. Les journalistes politiques sont regardés par leurs collègues dans les rédactions comme une drôle d'espèce de journaliste qui fonctionne dans un rapport un peu étrange aux informations. Et tout ça, aujourd'hui, se trouve bousculé par les réseaux sociaux, par le fait que l'information circule autrement, qu'elle est publiée par tout un tas de gens, et pas seulement par ceux qui en ont une sorte de monopole. Donc cette survivance qu'est la page 2 du Canard, quelle est sa place aujourd'hui au milieu de Twitter ? Le Canard qui d'ailleurs n'est pas sur les réseaux sociaux.
J'aimerais justement avoir votre avis, alors du coup, par rapport au off. Est-ce que vous considérez qu'il faut essayer plutôt de réguler le statut de ce que serait cette parole off, ou au contraire, il faut essayer de l'abolir parce que ça peut contribuer aussi à alimenter une forme de défiance du public à l'égard des journalistes en disant, bah voilà, il y a des choses que les journalistes savent, que les politiques leur disent, mais que eux ne vont pas répéter. Ça fait penser, évidemment, alors, enfin, je sais pas à quoi ça vous fait penser, moi, mais à l'affaire Mazarine, par exemple. L'affaire Mazarine, la fille de François Mitterrand, la presse, en tout cas une partie de la presse savait, le grand public a priori ne savait pas. Donc on peut considérer que c'était une information qui relevait du off. Alors est-ce que c'était une information qui méritait d'être publiée ou pas ? Ça, il y a eu beaucoup de débats après. Mais en tout cas, est-ce que le off n'est pas une anomalie, on va dire, du système médiatique, Anastasia Colosimo ?
Je dirais que le off n'est pas du tout une anomalie. Je pense que ce serait plutôt très dangereux de commencer à essayer de réguler parce qu'on est sur une lisière extrêmement complexe. Il y a plusieurs zones, en fait, comme ça, dans nos démocraties, où il y a un combat entre deux droits. Il y a le droit à l'information et à côté, il y a le droit à la vie privée. Alors là, dans le cas de Wauquiez, c'est un cours, c'est plus compliqué. Mais en fait, pour tous les moments où le problème se pose véritablement, je pense, il peut y avoir des vraies difficultés du côté de la vie privée et encore plus avec les réseaux sociaux, il y a un vrai problème là-dessus. Et en même temps, c'est très difficile à réguler et on aurait envie d'être dans un rapport de confiance qui, par ailleurs, ça veut dire aussi qu'il peut être brisé de temps en temps.
Oui, mais vous la devez à qui ? Vous la devez à votre interlocuteur, à vos sources ? Ou bien vous la devez à ceux qui vous lisent ou ceux qui vous écoutent ?
Bah justement, ça dépend si vous considérez que l'information est assez intéressante, assez essentielle. Enfin, c'est des critères d'ailleurs juridiques, hein, de savoir est-ce que c'est une information essentielle à l'intérêt général ou pas. Je pense que le droit nous éclaire assez sur ce genre de débat. Et en même temps, je pense que trop judiciariser ces questions-là empêchera à la fois peut-être un travail de journaliste qui, même si, encore une fois, peut être un travail de voyou, est nécessaire. Et en même temps, peut aussi verrouiller les personnes de l'autre côté, c'est une question complexe.
Sans aller peut-être jusqu'à la judiciarisation, Brice Couturier, mais en faire un élément de déontologie, de dire, bah voilà, quand on est journaliste, on n'accepte pas les propos off. Quand on est journaliste politique, par exemple.
La déontologie, c'est déjà un peu. Quand je dis de la judiciarisation, c'est au moins de la réglementation. Enfin, le fait d'édicter des règles un peu objectives, je trouve ça compliqué.
Brice Couturier ?
Bah, écoutez, il faut créer une relation de confiance. Si on veut obtenir des confidences et des éclairages de la part d'un homme politique, il y a intérêt à ne pas le trahir, évidemment, parce que on est dans un marché.
Pourquoi faudrait-il, pourquoi serait-ce utile de recueillir des confidences d'un homme politique ?
Parce que ils ont
Pourquoi
des informations.
Pourquoi c'est intéressant quand on est journaliste ?
Parce qu'ils ont des informations que nous ne possédons pas. Et précisément, notre métier, c'est d'essayer d'obtenir ces informations malgré eux ou grâce à eux. Non, moi, ce qui m'intéresse davantage, si vous voulez, c'est dans le cas de Wauquiez, pour revenir à l'origine de ce problème, c'est l'écart entre l'image publique que cet homme donne quand il dit « je dis des bullshit à la télévision et à vous, étudiants en petit comité, je vais vous dire la vérité et là, je vais balancer ». Moi, ce qui me paraît plus problématique, c'est cet écart-là. Moi, j'accepte assez bien qu'un homme politique et un discours brutal face à un petit comité ou dans un déjeuner, et un discours évidemment beaucoup plus mesuré devant plusieurs millions de téléspectateurs, c'est normal. Mais à condition que ce soit le même discours, que ce soit la même pensée et qu'elle soit formulée de manière différente. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on nous dit qu'on ne peut pas surveiller 24 heures sur 24 comme on doit le faire sous l'œil des caméras. Mais précisément, vous avez maintenant une nouvelle race, si j'ose dire, d'hommes politiques qui précisément se comportent devant les télévision et devant les micros, comme s'ils étaient avec une bande de copains au milieu de la nuit dans un bar. Et ça, c'est Trump. Et là, on a vraiment affaire à une nouvelle catégorie de personnel politique très, très différent de ce qu'on a connu jusqu'à présent, qui transgresse absolument toutes les règles, qui renverse tout ce qui est tout ce qui semblait acquis, si vous voulez, de la civilité, des bonnes manières et de la politesse qui existaient dans nos métiers. Et c'est vraiment problématique parce qu'ils rencontrent une attente, manifestement. Toute la question est de savoir si la société française est aussi malade, est aussi perturbée que l'était la société américaine l'année dernière, enfin en 2016, quand Trump a été élu. Et je pense que c'est vraiment ça le fond du problème. Aujourd'hui, est-ce que la désespérance, le sentiment d'être mis à l'écart d'une partie très importante de la population va permettre à Wauquiez ce lancement sur orbite qu'il espère ou pas? Et je pense qu'il y a un vrai problème là.
Je pense aussi que c'est la poule ou l'œuf, c'est-à-dire je ne pense pas qu'on puisse accuser seulement les hommes politiques. Je pense que les médias ont vraiment eu un rôle extrêmement fort là-dedans. Et je pense que c'est exactement parce que les médias n'ont pas toujours été honnêtes sur le fait d'être des médias d'opinion. Ils n'ont pas toujours été honnêtes dans la moralisation qu'ils ont infligée aux politiques, que les politiques aussi se sont rebiffés et ont dû créer un langage parallèle pour atteindre le peuple. Parce que le peuple, lui, était aussi moralisé par cette partie des médias.
Oui, mais le problème, c'est qu'il y a deux registres de langage, là. C'est-à-dire, ils peuvent très bien avoir une autre forme de langage, mais essayer d'avoir un langage qui soit le même quand on est dans une forme de quand on est dans une parole publique et dans une parole privée. Là, ce qui pose quand même le problème, c'est le décalage. Et ça décrédibilise quand même pour un certain temps, a priori, ce que va pouvoir dire Laurent Wauquiez.
Mais tout ça n'est pas nouveau. Si on s'attache maintenant plutôt à la forme de l'expression qu'au fond, pensez à la façon qu'avait Georges Marchais de parler. Pensez à la manière qu'a eu à un moment Laurent Fabius de se dire il faut que je n'utilise que 400 mots de vocabulaire pour pouvoir m'adresser aux citoyens français, alors qu'il était comme Wauquiez, surdiplômé, etc. Donc tout ça n'est pas nouveau. Pensez à Bernard Tapie. Pensez à Nicolas Sarkozy.
Pas le même niveau intellectuel ni culturel.
Ce sont des exemples de gens qui ont opéré un décalage, je dirais, entre leur manière d'être en privé et les représentations qu'ils donnent d'eux-mêmes en public, pour le coup, sous prétexte de s'adresser mieux
mais sur le fond
à
aussi,
un public.
Hein, sur le fond
ce qui est d'ailleurs,
aussi.
Soit dit en passant,
sur le fond aussi.
Souvent extraordinairement condescendant à l'égard de ce public. Et je pense qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une forme d'ambivalence à cet égard. Il y a probablement une partie du public qui peut encore se faire duper par ces pauses, par ces jeux, mais je crois aussi qu'il y a une partie de plus en plus grande du public qui peut très mal vivre d'être pris pour des imbéciles et qui préférera entendre quelqu'un dont elle ne comprendra pas nécessairement toute la complexité de la pensée, parce que parfois les sujets sont compliqués et on n'est pas tous des spécialistes de tel ou tel dossier, mais pour qui finalement la politique c'est aussi ça et c'est la possibilité d'entendre un Michel Rocard ou d'entendre quelqu'un qui va prendre le temps d'essayer de faire la pédagogie. Et être pédagogue, c'est pas être démagogue, c'est pas la même chose.
Anastasia Colosimo.
Je ne peux pas tout à fait être d'accord avec ça parce que moi je pense qu'il faut être résolument populiste, c'est-à-dire que c'est une chose extrêmement bizarre de cette tendance qu'on a de considérer que le populisme est une mauvaise chose. Si le populisme c'est parler au peuple, je pense que c'est une très bonne chose et je pense que ça manque énormément. Et d'ailleurs c'est une chose qui manque énormément.
Non, le
notamment
populisme c'est tenter de faire peuple, ce qui n'est pas la même chose.
Non mais ça c'est votre définition.
Oui.
J'ai la mienne. Et donc du coup ce que je voulais vous dire là-dessus, c'est que je pense que ça ne peut être que louable à partir du moment où le décalage est aussi fort entre les élites et les peuples. Là où je vous rejoins, c'est que je pense que celui qui représente le peuple n'a pas besoin de faire peuple pour parler au peuple. Je pense que le peuple ne veut pas de quelqu'un qui lui ressemble, dans le sens, vous voyez, qui lui renvoie la même image que lui. On n'a pas besoin d'avoir... on veut plutôt quelqu'un qui a beaucoup de vocabulaire, même si on n'a pas beaucoup, pour être représenté. Donc je pense que là-dessus, Wauquiez, d'ailleurs, a assez longtemps fait plutôt une erreur qu'il est en train de corriger, et l'émission politique l'a montré. Il essaie de se remontrer comme... le normalien, l'agrégé, l'énarque qu'il est, et c'est plutôt, de son point de vue, une bonne stratégie. En revanche, sur le fond, et là, je serais vraiment pas d'accord, sur le fond, il y a aussi des vérités dont on a l'impression qu'on ne peut plus les dire, et dont on a l'impression surtout que les politiques n'osent plus les dire du tout, et le cas... Alors, absolument entendu, c'est celui de Trump, évidemment. Mais Trump, à chaque fois qu'il y avait du off qui sortait, il gagnait des points. Je veux dire, quand le off est sorti, quand il a dit « attrapez-les par leur chatte », il a gagné des points. Mais il a gagné des points pourquoi ? Parce que toute la presse lui est tombée dessus en disant « mais c'est absolument abominable et tout, c'est horrible, il ne parlait plus que de ça, il ne parlait plus de programme politique. » Et c'était à ce moment-là de la faute des médias. Et Trump disait quoi ? Disait « mais pardon, mais il y a un tas de bonhommes qui parlent comme ça. Et c'est pas grave, et c'est pas le fond du problème. Donc, tout ça pour dire qu'il y a aussi une question des médias derrière qu'il faut se poser.
Il y a un contre-exemple qui remonte à 2002 sur l'impact que peut avoir la publication de propos off, un impact direct sur une élection. C'est Lionel Jospin qui revient de La Réunion en avion, qui parle de Jacques Chirac, qui dit que Jacques Chirac est un président qui est usé et vieilli. Ça a fait quand même beaucoup de bruit. À l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. On a dit ensuite, et c'est sans doute pas tout à fait faux, que ça lui a coûté, en tout cas, une partie de sa non-élection. Brice Couturier, finalement, qu'est-ce qui doit dicter le fait de publier ou pas des propos qui sont off ? Est-ce qu'il faut penser à l'impact que ça peut avoir avant de publier ? Est-ce que c'est l'intérêt uniquement de ces propos qui doit faire décider de les publier ou pas ?
Ben, c'est la réputation qu'on essaye de conserver vis-à-vis des gens avec lesquels on travaille, c'est-à-dire ceux dont on essaye d'obtenir des informations. S'ils savent qu'on est respectueux à leur égard et que quand ils vous disent « ça, je vous le dis, mais je désire que vous ne le publiez pas, que vous ne le rendiez pas public, même si vous pouvez l'intégrer dans votre propre réflexion pour rendre compte de manière plus générale et que vous ne respectez pas cette règle, eh bien, vous n'aurez, dans le milieu en question, qu'il soit politique ou intellectuel ou universitaire, vous allez évidemment perdre de la crédibilité et vous aurez beaucoup plus de mal à obtenir ce genre de confidence.
Donc vous mettez les journalistes au même niveau que les prêtres. Le secret du confessionnal.
Eux, ils sont vraiment tenus. Ça va même très loin parce qu'ils n'ont pas le droit de dénoncer des criminels, ce qui pose quand même un certain problème par rapport à la justice. Alors que je pense qu'un journaliste à qui on confie qu'on a assassiné quelqu'un ou qu'on a violé des enfants, je pense qu'il a intérêt et qu'il le fera à dévoiler et ses sources et ce qu'on lui a dit. On n'est pas des confesseurs. Non, si vous voulez, on nous confie des informations. Nous devons en faire notre sauce. Encore une fois, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure sur les petites phrases et les grands problèmes. Nous devrions, nous, journalistes, éclairer l'actualité, non pas en répétant simplement ce qu'on nous a dit, mais en le digérant, en faisant notre sauce, en le confrontant avec d'autres informations dont nous pouvons disposer, avec un savoir-faire, avec des compétences spécialisées, et ensuite, de cette manière, éclairer une actualité. Parce que simplement répercuter que machin a dit que Bidule était un crétin, franchement, ça n'a strictement aucun intérêt.
Ça pose la question de savoir... Où est l'information dans cette affaire ? L'information, pour moi, elle n'est pas du tout dans le contenu des propos de Laurent Wauquiez. En tous les cas, jusqu'à nouvel ordre. Ce qu'il dit à propos de l'enregistrement par Nicolas Sarkozy de ses ministres, pour moi, en l'état, aujourd'hui, ce n'est pas une information. Ce sont des propos de Laurent Wauquiez qui ne sont pas étayés, qui ne sont pas recoupés. J'appelle pas ça une information.
Ça mérite quand même qu'il y ait un travail journalistique derrière pour s'assurer que...
Peut-être que des journalistes peuvent considérer qu'il s'agit d'une hypothèse sur laquelle on peut travailler et peut-être que cette hypothèse peut devenir une information si elle est recoupée. Mais il faut pour ça produire un travail journalistique. Donc en l'état, ce n'est pas une information. L'information, c'est quoi ? L'information, c'est la manière dont Laurent Wauquiez parle devant un public comme celui qu'il avait d'étudiant. La manière dont il parle du monde politique, dont il parle de ses adversaires. Ça, c'est une information. Et c'est une information qu'on peut analyser, comme le disait Brice, en la confrontant à d'autres informations, en faisant des commentaires. J'observe que le commentaire est allé dans une direction. On s'est posé la question de savoir si Laurent Wauquiez était normal de se comporter comme ça. On a singularisé Laurent Wauquiez. On ne s'est pas posé la question de savoir dans quelle mesure Laurent Wauquiez était typique en parlant comme ça du monde politique. Et moi, je pense que la vérité est probablement entre les deux. Laurent Wauquiez est typique d'un fonctionnement politique, mais il en offre une version un peu radicalisée, on va dire. Et donc, comme souvent, quand on a des exemples un peu limites, ça permet de mieux comprendre. Et je crois qu'on peut se servir de cette affaire et de cette information. Et pour ça, je suis gré au quotidien d'avoir sorti cette information. Elle nous permet... à nous journalistes de mieux expliquer au public comment fonctionne l'univers journalistico-politique. Donc c'est une information intéressante.
Donc vous voyez que cette émission avait un intérêt, Brice
Couturier. C'était en gros la démonstration, finalement.
C'est comme ça que je le comprends, en tout cas.
J'en conviens, enfin.
Anastasia Colosimo, si on devait tirer une leçon, justement, de cet épisode-là, ça serait celui-là, c'est-à-dire de faire aussi comprendre comment fonctionne le monde politique, enfin, en tout cas, comment fonctionnent les relations entre le monde politique et puis le monde journalistique.
Bah, je pense que c'est très important de donner, effectivement, le goût du fait que quand un politique parle, il y a un monde derrière, il y a un monde de réseaux, d'explications, de choses dont on ne sait en fait à peu près rien, et même d'ailleurs une fois qu'on a écumé toute la presse, et même une fois qu'on a lu Le Canard, et même une fois qu'on est allé s'abreuver à toutes les sources d'information, il y a toujours une part de mystère, parce que ce monde politique est un monde extrêmement complexe. Je pense que l'autre leçon, c'est une leçon politique que donne Wauquiez. Je ne sais pas s'il l'a fait à dessein ou pas, tout ça se discute, on n'en a pas beaucoup parlé, mais la question se pose aujourd'hui. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette question du parler vrai ou du parler pas vrai, elle a été déterminante dans plusieurs élections récemment, et elle peut l'être de plus en plus dans nos élections aujourd'hui. Donc il y a une question que les médias doivent se poser, à mon sens, sur la part qu'ils donnent aussi à des paroles qui leur déplaisent.
Et je renvoie d'ailleurs à une émission qu'on avait faite dans Politique, c'était au mois de décembre dernier, qu'on avait intitulée « Parler vrai et langue de bois, même combat ». C'était avec la professeure de littérature Cécile Alduy. Voilà, on a mis le lien sur la page du Grain à Moudre. Et puis demain matin, dans la fabrique médiatique de Caroline Brouet, à 8h-20, deux journalistes politiques reviendront aussi sur cette question, en l'occurrence Nicolas Domenach et Françoise Fraisseuse. Voilà, merci à toute l'équipe du Grain, Antoine Dulster, Leïla Saïdi, Virginie Leduo, Marine Becker, Elie Prune Saez, émission réalisée par Véronique Villa, avec à la prise de son Nadège Antonini, Pierrick Charles et Jean-Benoît Tétu.